Les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.
Les clés d'une vie, celle de mon invité. Votre voix a fait de vous l'élu du public. Après un demi-siècle de carrière, vous demeurez plus que jamais dans la note. Et cela ne relève pas du miracle, même si vous avez beaucoup chanté dans les églises. Bonjour Nicoletta.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
Eh ben écoutez, on est ravis de vous retrouver parce qu'en plus, il y a une série de concerts à travers la France et au Lido, on va en reparler. Mais le principe de l'émission, c'est d'évoquer votre carrière à travers des dates clés.
Bien sûr.
Et la première que j'ai trouvée, elle ne vous concerne pas directement parce que vous n'étiez pas né, mais elle est importante dans votre vie. C'est le 4 mai 1938, la sortie de ce film.
Un jour.
Je crois que Blanche-Neige et les Sept Nains, Nicoletta, est le premier film que vous avez vu.
Oui, c'était le comité d'entreprise de ma chère grand-mère qui travaillait comme ouvrière d'usine chez Bolloré Père et qui m'avait emmenée. J'avais 5-6 ans et j'étais ravie. C'était tellement joli, ces oiseaux autour de Blanche-Neige et la joliesse de ses petits cils et tous ces petits nains qui s'occupaient d'elle, qui rentraient du boulot. Ah, c'était bien de voir un film, c'était une magie totale.
Et c'est vraiment la première fois avec ce film qu'on a inventé un principe qui est devenu d'actualité partout, c'est les droits dérivés. C'est Walt Disney qui l'a inventé avec ce film, avec les personnages.
C'est un sacré bonhomme celui-là, hein.
Exactement.
Bravo.
Alors, pour revenir au passé, vous avez grandi à Vongy, au-dessus de Thonon, les bains, et c'est votre grand-mère qui vous a élevé, Claudia, je crois, Nicoletta.
Oui, elle s'appelle Claudia. Et Madame Claudia Grisoni, Mademoiselle Claudia Cordier.
Voilà. Il y avait le grand-père aussi, je crois, César.
César.
Qui était un maçon, qui buvait un petit peu, mais c'était
C'était dès qu'il a eu un gros choc, ce monsieur. Ce sont des parents qui, en 1944, j'avais 5 mois, ont perdu deux de leurs fils tués par les Allemands. Un d'un éclat d'obus dans le Vercors, qui avait 19 ans, et l'autre de 17 ans était descendu par un milicien sur la place à Thonon-les-Bains, en compagnie de Marie Reinhardt, la nièce de Django, parce que ma famille planquait Django et ses roulottes sous leur pommier. Alors évidemment, c'était mal vu. Hein. Et on a tué ces deux enfants. Il y a encore la plaque commémorative, d'ailleurs, à Thonon. Quand je passe devant, ça me touche beaucoup. Et ma pauvre grand-mère, chaque mois d'août, elle n'était pas bien du tout. Et moi, je suis en avril, ils sont morts en août. Et mon grand-père, petit à petit, n'en pouvait plus. Par chagrin, s'est mis à boire un peu. En plus, il est devenu handicapé. Il a fait la Syrie et la Libye en 14-18. Donc, il prenait de la novaquine. Il avait attrapé le palu. Il avait la quinine. Il avait des grosses fièvres. Il avait des gros problèmes avec cette maladie dont on ne guérit pas. Et on l'avait exempté de travailler. Entre perte de travail, c'est un maçon très émérite qui aimait son métier, la perte de ses enfants, il allait jouer à la pelote au café du village et revenait un petit peu, comme dirait ma grand-mère, avec la charmante. Voilà.
Alors, à cette époque, c'est l'école. Alors, l'école, vous êtes à la fois une bonne élève.
Oui, je suis une bonne élève.
Oui, mais un peu école buissonnière quand même, Nicoletta.
Non, plus tard.
Oui.
Au début, à l'ado, l'adolescente. Non, jusqu'à la quatrième, j'étais impeccable.
Ouais, mais très bonne en littérature.
J'ai toujours aimé lire.
En dessin.
Et ma petite grand-mère, dès l'école primaire, m'inscrivait aux bibliothèques. Donc, je pouvais lire un ou deux livres par semaine. Et c'est une habitude que j'ai gardée.
Voilà. Mais ensuite, effectivement, à l'adolescence, ça s'est un peu gâché.
Ouais.
Vous avez même, je crois, dans un collège, été jugé irrécupérable.
Non, ça, c'est chez les religieuses. Ouais. Bon, les religieuses, elles m'ont dit que je fais rire dans un cabaret. Elles ont eu raison. Elles étaient vraiment prémonitoires. Hein.
C'est-à-dire que vous avez fait plusieurs collèges.
Ouais, j'ai fait le collège Thonon, le collège d'Annecy et le collège d'Évian. Enfin, ceux du territoire, de la Haute-Savoie.
Au moins, vous avez tout vu comme ça. Parce que vous n'avez pas envie, ça ne vous intéressait pas.
Non, arrivé en quatrième, j'ai eu des difficultés pour continuer mes devoirs. Personne ne pouvait m'aider. J'étais assez seule. Mon grand-père était pénible, parce que quand je rentrais, il avait déjà la charmante bien achevée, enfin, bien imposée, il radotait, il rigolait tout seul. C'était infernal. Donc, j'ai un peu souffert de solitude. Et quand on a 14 ans, 15 ans, on a des problèmes quand même d'évasion dans la tête. Hein. Et c'est vrai que j'ai commencé à suivre quelques copains qui avaient des Vespa, qui avaient la banane. J'ai découvert Elvis Presley, le rock'n'roll. C'était beaucoup plus rigolo que d'aller à l'école. Et c'est vrai que, malheureusement, le collège d'Évian, le dernier que j'ai fait, écoutez-moi, c'est en troisième, devinez quoi, il était au bord de l'eau. Alors j'étais ravie, je voyais les mouettes, les cygnes, les oiseaux, je voyais la Suisse en face, c'était magnifique. Toutes ces lumières sur le Léman, qui est un lac magique, ces bateaux à vapeur qui passaient. Ça, ça donne envie de rêver et de partir. Voilà ce qui m'est arrivé.
Alors vous avez quand même eu de bonnes notes au château de Brécourt, puisque d'après mes renseignements, vous avez eu au tableau d'honneur deux places pour assister à l'opéra, un spectacle d'opéra avec Jacques Chazot, Nicolas.
Je voulais aller à l'opéra de Paris, parce que j'y avais jamais mis les pieds. J'étais donc dans un internat au château de Brécourt en Seine-et-Oise, à côté de Nesle-la-Vallée, ce qui était formidable. On était tous dans une maison pilote. On m'avait fait faire des tests de QI, il paraît que j'ai un bon QI. Et on était toutes choisies sur le volet. Bon, j'ai fait un an en cours accéléré de sténo-dactylo. Je m'en suis jamais servi. Et puis, bon, et c'est pas ce que je voulais être. Et puis, quand même, on m'a émancipé à 18 ans. Ma grand-mère m'a émancipé, mon juge de tutelle. Et je suis revenu à la maison. J'ai pas trouvé de boulot, j'ai fait que du petit boulot, mais pour revenir à votre prix, l'opéra, il n'y a plus de place. On m'a dit, mais il y a l'opéra Garnier, il y a l'opéra Favart, c'est-à-dire l'opéra comique, où il y a monsieur Jacques Chazot qui danse avec Ino Lemaert, les valses de Strauss. J'ai dit, bon, ben, allons-y pour les valses de Strauss. Donc, on m'a emmené voir les valses de Strauss, c'était charmant. Il y avait surtout, en première partie, un beau danseur torse nu qui s'appelait Peter Van Dyck, qui était magnifique sur ses pointes. Oh, il était joli. Mais quelques années plus tard, je rencontre Jacques Chazot chez Castel. Et on est devenu copain tout de suite parce que je lui dis, vous avez été mon premier prix d'excellence. J'avais eu 16 de moyenne. On avait essayé de me faire faire une petite sortie. Il était tout fier. Oh, vraiment, vraiment. Et puis on est devenu copain. C'était un homme délicieux.
Oui, qui rigolait beaucoup. Et son fan numéro un, c'était François Mauriac qui disait, je suis le père de Jacques Chazot.
Oh, c'est chou.
Alors, il se trouve aussi qu'à cette époque, bon, la chanson vous passionne depuis toujours. Je crois qu'enfant, vous chantiez dans une grange sur des chars à foin, Nicolas.
Ah oui, mais c'était la grange de ma grand-mère au village. Il y avait le poulailler, il y avait la grange, on mettait le foin, etc. Parce que s'il n'y a pas, on avait des vaches encore. Puis après, ils ont arrêté, elle a gardé les terres, mais on n'avait plus d'animaux solides. Hein. On n'avait que des poules et des lapins. Et ce petit char à foin, il me servait de très tôt pour faire mes queues musicales de 8 ans à 10 ans. Alors je piquais les rideaux de la grand-mère, les talons de la tata, le rouge à lèvres, on se déguisait, on jouait aux princesses et aux comtesses. Et quand j'avais plus d'idées pour les dialogues, on tombait dans les pommes et je réclamais les selles.
Et puis, il y a une chanson quand même où votre grand-mère Claudia apparaît en filigrane. Une chanson qu'au départ, vous ne vouliez pas chanter.
Oui. C'est... Oh, mamie, mamie bleue. Ouais. Mais je ne parle pas d'elle. Non, c'est pour ça que je ne voulais pas la chanter. Ouais. Le texte, je voulais qu'on le change. Je ne parle pas de ma grand-mère. Je parle de ma mère. J'ai perdu ma mère, malheureusement, je n'étais pas là. J'étais déjà montée à Paris et j'ai appris ça mort par un télégramme. J'ai été violemment heurtée. J'ai eu une souffrance que je n'ai jamais pu ressentir, et heureusement, parce que c'était très douloureux. Pour oublier cette souffrance et le choc que ça m'a fait de lire son décès, je me suis tapé la tête contre le mur pour ne plus avoir mal. Et évidemment, j'ai eu du mal à enregistrer cette chanson. Mais comme m'a dit Monsieur Mission, mon producteur, on change pas les métaphores de cette chanson.
Et cette chanson a été un succès, la pochette bleue est mythique. Et je crois même qu'un 14 juillet, vous avez entendu quelqu'un chanter cette chanson dans la rue, Nicoletta. C'est-à-dire que ça vous a marqué, vous étiez un 14 juillet, c'était étonnant.
On entend souvent des chansons, des gens qui passent à vélo, qui sifflent, et tu es dans ta chambre, et sous ta fenêtre, il passe des gens qui fredonnent une de tes chansons. C'est très touchant, ça.
Et puis il y a même, je crois que beaucoup d'enfants appellent leur grand-mère mamie à cause de cette chanson.
Oui, on disait mémé, on dit toujours mémé, je trouve que c'est un bon terme populaire, mémé. Mais c'est vrai que mamie, c'est l'année 70 qui a emmené ça.
Et puis, vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie, notamment des petits métiers. Et à Cannes, vous avez été portraitiste parce que vous auriez pu faire les Beaux-Arts.
Oui, je pouvais pas faire les Beaux-Arts, j'avais pas le niveau du bac, mais j'étais à l'école textile à Lyon, après Brécourt. Oui. J'ai fait quelques mois, après presque une année scolaire, à l'école des ingénieurs textiles, dans le circuit dessinateur-compositeur en soirée. J'ai appris à faire des compositions pour les façonner et les imprimer.
Oui, ça vous a pas beaucoup servi ensuite, mais...
j'ai fait les cours du soir des Beaux-Arts, une fois par semaine, en Académie du Nu, comme Gainsbourg.
Voilà.
Et, voilà.
Et à Cannes, vous avez donc gagné votre vie.
J'ai dessiné sur les trottoirs,
Et vous avez rencontré quelqu'un qui est devenu un ami, qui était Villard.
Hervé Villard, qui passait des vacances. On entendait la jolie voix tous les jours sur toutes les radios.
Caprice
et
fini.
On a fait la fête ensemble. On avait 19 ans, on était des gamins insensés. On aimait la fête, on aimait les copains. Et puis à l'époque, on partageait tout. on partait. Moi, je faisais 10 francs, 15 francs, je payais à manger à la copine et vice-versa. Il n'y avait pas... Je crois que les jeunes d'aujourd'hui ont moins les moyens. C'est beaucoup plus difficile. Nous, c'était le début de l'âge d'or. Et moi, on était du petit beatnik. C'était juste avant les hippies. Mais on s'entraidait vraiment. On couchait sur les matelas des plages. On se débrouillait, quoi.
Et vous avez continué à bien vous débrouiller. On en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 26 mars 1967. À tout de suite sur Sud Radio avec Nicoletta.
Les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de Nicoletta, 50 ans de carrière, une tournée et le Lido, on en parlera tout à l'heure. Mais le 26 mars 1967, ça vous dit peut-être rien, c'est une émission de télévision qui s'appelle Main dans la main, sur le thème de la jeune fille. Et pour la première fois, vous êtes à la télévision avec cette chanson.
Combien d'amour pour oublier.
Belle chanson.
Votre première télé, ouais. Vous en souvenez?
Pas vraiment. Je vous assure que pas vraiment. Mais la chanson, oui, je m'en souviens. C'est Léo Ferrat qui me l'a confiée, puisque j'ai été découverte et amenée chez Barclay par un de ses musiciens.
Richard Bennett. D'ailleurs, vous avez été auditionné par lui et vous avez attendu le contrat pendant 6 mois. Et votre grand-mère a dit c'est pas sûr qu'il vienne.
Oui, non, c'est pas ça. Elle m'a dit, écoute, laisse tomber, parce que c'est toute d'utopie, tout ça. Il ferait mieux de travailler, ma fille. Je serais pas là tous les jours pour venir t'aider. Et parce que ma mémé, quand elle m'écrivait, elle me mettait un billet de 100 francs, plié dans du papier de soie, dans sa lettre. Mais 100 francs, je faisais plus de 8 jours avec, à l'époque. C'était énorme pour elle.
Il y a quelqu'un d'autre qui vous repère au bus Palladium, c'est Léo Missir. Il vous dit, il faudrait venir chez Barclay. Et vous dites, j'y suis déjà.
Ben, c'est-à-dire que oui, j'avais ce contrat d'option de 6 mois, je voyais rien venir. Et il me dit, oh là là, il y a des années, je cherche une fille comme vous, il me prend par la main, il me tire de scène, je faisais les chœurs derrière un chanteur anglais qui venait, Arthur Brown. Et il me donne sa carte. Je dis, mais je vous connais, vous étiez qui sur quel contrat? Ben oui, j'ai un contrat donné par Richard Bennett, mais j'ai pas de nouvelles. Mais on vous cherche partout, qui me fait. Et c'est vrai que j'avais déménagé à l'époque, parce qu'on habitait des petits hôtels de Saint-Germain-des-Prés, de temps en temps, on partait, parce qu'on a dû mal à payer nos notes.
Hein. Oui. Et puis, il y avait une grève des musiciens, je crois, qui avait empêché l'enregistrement.
Ah,
et...
ça, c'est après, quand j'ai fait mon premier album. Oui, c'était difficile.
Alors, finalement, si tout ça est arrivé, c'est parce qu'un jour, vous avez dit, je tente ma chance à Paris, et ça a été quelques galères, Nicoletta.
Oui, non, je suis montée à Paris. Oui, j'ai eu des galères, mais j'ai eu de la chance aussi, parce que j'ai été hébergée par des copains. Je me souviens, je suis restée 3-4 heures au Flore. Je me suis fait arrêter au Flore en stop. Moi, je ne venais pas à Paris, je venais à Saint-Germain-des-Prés. C'était la ville phare, c'était les quartiers phares de l'époque où il y avait les artistes, les intellectuels, les créatifs, et c'était, il y avait de l'âme, c'était Saint-Germain, c'était le jazz aussi, c'était Boris Vian, c'était, il y avait encore toute cette aura qui était là aux années 65. Et donc, je suis descendu à Saint-Germain, et je me disais, j'ai 3-4 téléphones dans ma poche, faut pas que je me trompe. Faut que j'appelle les bons copains. Parisien.
C'était le 5 février 64, je crois.
Exactement.
Et donc, vous avez commencé à travailler, à faire des tas de petits boulots. Je crois que vous avez été vestiaire.
Oui, j'ai fait vestiaire. J'ai servi des pizzas aussi. J'ai fait vestiaire. J'ai fait de vestiaire. Je suis passé DJ au King's Club parce que le disque repartait.
On appelait ça disquaire et pas DJ à l'époque.
Évidemment. On avait 2 platines Torrens. On prenait les haut-parleurs. On faisait marier les sillons entre eux pour pas qu'il y ait d'interruption pour l'ambiance sur le dance floor. Et il y avait les slows à l'époque quand même. Il y avait les 3-4 slows d'amour où les jeunes pouvaient flirter et se déclarer leur flamme. Aujourd'hui, ils sautent en l'air comme des poissons et il n'y a plus de slow.
Il y avait les discothèques aussi de la rue Dufour, célèbre, chantée par Juliette Gréco. Il y avait le Bistingo chez Carlos.
Oh, qu'est-ce qu'on a rigolé au Bistingo. C'était drôle.
Et puis surtout, vous étiez sur la piste en train de chanter en permanence. On vous appelait la folle, je crois, Nicoletta.
Non, ça, je ne m'en souviens pas, non.
Ah,
non.
J'ai les preuves, j'ai trouvé des articles.
On vous l'a dit Ah, c'est rigolo. Parce que je hurlais sur les disques, je faisais mon contrude, ça les faisait rigoler. Ils croyaient que j'étais un peu cinglé. C'est vrai que quand j'ai dit que j'allais enregistrer, que j'allais chanter, mes copains du coin disaient, elle est folle, elle est complètement mythomane. Elle dit qu'elle va faire un disque, tu parles. C'était, à l'époque, c'était pas facile. Donc, quand je disais que j'avais signé chez Barclay, que j'étais mytho.
Voilà. Et on vous appelait Nicole à l'époque, et je crois que c'est un chanteur suédois, Bob Askoff,
qui était beau comme un cœur.
Voilà, qui vous a appelé Nicoletta.
Oui, la petite Nicole, tout
comme
à
ça.
Fait. Oui.
Et ce chanteur, finalement, il a joué dans plusieurs films. Il a interprété la chanson du film Bon Baiser de Russie.
Tout à fait, James Bond.
Voilà, il a fini sa vie comme peintre en Suède.
Tout à fait. Je l'ai appelé quand je suis allée à Stockholm. Et j'ai eu des rapports avec lui jusqu'au bout. Il est décédé maintenant. Ses amis m'ont dit qu'il était mort. Ils m'ont averti depuis la Suède. Et c'est un bon peintre. Il avait beaucoup de talent. Et Bob m'a beaucoup encouragé à chanter. Il aimait bien ma voix. Il disait, tu dois chanter, Nicole. Tu dois chanter.
Et Barclay le pensait aussi. Et la première fois que vous l'avez rencontré, il a sorti une pince à billets de sa poche et vous a donné 500 francs.
Donc ça c'est quand je suis venue signer mon grand contrat. C'était 8h du soir, je n'avais pas l'argent, j'ai dit là, comment je vais rentrer, moi j'ai pas d'argent, et il m'a donné 500 francs. Mais comme c'était un homme d'affaires, il ne les a pas donnés. L'année d'après, quand j'ai reçu mes premières royalties, il les a retenus sur mon compte de rendement des disques que j'avais vendus. J'étais morte de rire. J'ai dit, celui-là, c'est bien l'Auvergnat.
Et puis on a découvert aussi votre voix au cinéma grâce à cette chanson.
Ah oui, je faisais partie des actualités.
Voilà, c'est-à-dire que dans les actualités du cinéma, ouais. On voit Nicoletta, toute jeune, débutante, ouais. Chanter L'homme à la moto de Piaf.
Mon premier 40, j'adorais Piaf et je voulais montrer. À l'époque, il y avait Mireille Mathieu et il y avait Georgette Lemaire, qui étaient des élèves de Piaf, entre guillemets. Elles avaient été guidées par cette voix envoûtante que Edith avait, et c'était une tradition, Edith Piaf, c'était le summum de l'interprète féminine en France, une femme extraordinaire, avec un foyer d'interprétation fascinant, et j'aimais bien cette chanson, et j'ai voulu l'enregistrer, il me l'a fait pour me faire plaisir, Monsieur Messire, un peu rock'n'roll, un peu, beaucoup plus dans l'idée de l'époque, du motard, etc., et montrer qu'on pouvait chanter du Piaf sans l'imiter.
Et d'ailleurs, cette chanson, c'était un des premiers rock américains, quand Piaf l'a repéré.
Oui, tout à fait.
Elle l'a fait venir, Jean-André Jacques, à New York, pour passer un bon moment avec lui, je dirais.
Il a fait le texte,
il est reparti en France, il a été viré assez vite, mais il a fait une fortune avec cette chanson. Alors, c'était l'époque où on faisait la fête dans Paris, et dès que vous avez eu du succès, vous avez été un peu partout, et je crois qu'un des grands souvenirs de votre grand-mère, c'est l'Alcazar de Paris, avec la mère de Charles Trenet.
Oui, j'emmenais quand elle venait à Paris, c'était coiffeur, je lui achetais une nouvelle robe, je la faisais belle, et on allait dans les cabarets. Alors on a fait l'Alcazar, bien sûr, plusieurs fois, même chez Castel, l'emmenais. Un jour, il y a une fille qui me dit, oh, dis donc, c'est marrant, il y avait une vieille dame chez Castel, je dis, mais écoute, figure-toi que c'était ma grand-mère.
mais c'est vrai que c'était...
Et je l'ai emmenée, non, c'est au Don Camillo.
Oui, exactement.
Charles, et j'étais très copine avec Charles, qui m'aimait beaucoup, qui m'estimait beaucoup, et il y avait sa maman qui était toute petite. Il avait une maman toute menue, toute Marie-Louise, frêle, mignonne comme tout, et ma grand-mère s'est retrouvée à table avec Charles et Marie-Louise, et elle était heureuse parce que c'est le premier chanteur qu'elle a vu sur scène après la Libération, sur la place de la Mairie à Thonon-les-Bains. Donc elle était fière de rencontrer Charles Trenet et de pouvoir dîner avec lui et avec la maman. C'était très joli, un beau moment.
Oui, et leur rapport d'ailleurs entre Charles Trenet et sa mère était assez curieux. Un jour, sa mère dit à Charles, tu es un monstre, et lui répond, je suis ton fils.
Aïe, 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 oui. Elle m'étonne pas de lui.
Alors, c'était la fête permanente à Paris. Moi, je me souviens de soirée chez Thierry Leluron. Je crois même qu'un soir, on s'est retrouvé chez Thierry Leluron et on l'a couché pendant que les invités...
Mais évidemment, tout le monde... Écoutez, moi j'en avais marre, il nourrissait tout le monde. Tout le monde venait chez lui, c'était boulevard Saint-Germain, je m'en souviens. Ouais. Il avait un concert. J'ai dit, allez, maintenant, tout le monde dort. Allez, maintenant, toi, couché. Alors, je l'ai mis dodo. Bon, parce que je l'adorais, Thierry, c'était mon petit frère. Si tu te couches, t'as un concert demain, faut que tu sois en forme. C'était 4h du matin quand même, rappelez-vous. Et il avait ce petit lit à baldaquin, vous vous souvenez? Alors, oh, ma Nicole, on lui reste un peu encore. Je l'ai bordé comme un enfant.
Et c'est vrai que c'était une époque particulière où la fête était possible, ce qui n'est plus possible aujourd'hui, Nicole.
C'était l'âge d'or, on avait les moyens de faire la fête et cette espèce d'insouciance de la jeunesse qui tout d'un coup avait beaucoup d'argent dans les mains. On travaillait beaucoup. Moi, je me souviens, je partais, il y a quelques années, j'ai fait 200 concerts par an. Thierry, pareil, on gagnait beaucoup d'argent, on payait beaucoup d'impôts, on gagnait bien notre vie. Donc, on n'avait pas de famille quand même, pas d'enfants élevés, comme on était joyeux et libres. On est la première jeunesse à avoir gagné de l'argent si facilement. Donc, on le jetait un peu par les fenêtres. Mais moi, j'en ai fait profiter beaucoup mes copains et Thierry aussi. Combien de fois, Thierry, on allait au restaurant, on était 12, 15. Bon, j'ai dit, alors comment on fait? On partage, Anna. Et le barman dit, non, c'est fait. Comment c'est fait? C'était Thierry qui s'est élevé, qui avait payé pour tout le monde. Il était comme ça, Thierry.
Voilà. Et vous êtes comme ça. Et puis, ça a continué. On va en parler dans quelques instants avec une date plus récente, le 20 octobre 2001. À tout de suite sur Sud Radio avec Nicoletta.
Les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Nicoletta. Alors, le Lido, bien sûr, on en parlera tout à l'heure, mais là, on revient à une date importante qui est le 20 octobre 2001. Ce soir-là, c'est la première sur TF1 d'une émission.
Ah oui, avec les gamins qui reprennent ma chanson. Ah ouais, c'est chou.
Le générique de Star Academy, ouais, c'est la musique. Et ça, c'est avec Jennifer et toute la troupe. C'est un moment d'émotion, c'est presque quelque chose.
Je le savais parce que Pascal Nègre m'avait fait avertir au mois d'août. Il a eu l'idée de cette chanson, il est rentré du midi, de vacances, et l'entend à la radio. Il entend ma version à la radio. Il dit, ben oui, bien sûr, c'est ça qu'il nous faut pour l'émission. Ils avaient tout préparé, l'émission allait démarrer, ils cherchaient un générique. Donc, il est entré à Paris, ils m'ont téléphoné, la maison d'Is m'a téléphoné, et ils m'ont invité à déjeuner, et ils m'ont mis quand même au courant. J'étais dans le secret des dieux. Et quand l'émission s'est terminée, il a été formidable, il m'a mis dans les PLV à travers tous les disquaires, alors j'étais au milieu, à côté il y avait Jennifer et son disque, et de l'autre côté les gamins, et c'était très mignon parce que j'ai partagé une PLV avec eux, et j'ai vendu 98 000 albums de compil. Il m'a aidé, il a été très généreux, il m'a vraiment remercié, ça m'a porté bonheur.
Oui, parce que finalement, grâce à la musique et à Star Academy, une nouvelle génération vous a découvert, Nicoletta.
Tout à fait. Les parents montraient mon disque aux enfants qui croyaient que c'était un original. Ils disaient non, on a la vraie version. Alors voilà, ils ont compris qu'il y avait quelqu'un qui l'avait chanté avant.
Oui, je crois que la première version, le titre original était Angelica.
Oui, par P.G. Proby, oui. Qui était un chanteur anglais complètement fou, qui se prenait pour Jésus-Christ, je me souviens.
Et vous avez découvert cette chanson ?
Oh, je l'ai trouvé dans un carton au-dessus d'une armoire chez un éditeur. On cherchait des titres l'après-midi, on faisait des éditions avec Anne Grégory qui m'a écrit la musique, justement le texte, elle faisait des paroles. Et avec Missir, il disait, allez, je trouve moi des chansons, là, les filles traînaient. Donc on faisait des éditions. Et on trouve ça, on écoute, j'ai adoré la mélodie, et de Angélique, c'est venu musique, pour bien que sûr. Ça sonne, voilà.
Alors, il se trouve que dans Star Academy, il y a eu aussi l'Orange, mais l'Orange, beaucoup de gens ont cru que c'était Star Academy, alors que c'est Becco, on l'a un peu oublié.
Bien sûr.
Et Becco, vous avez fait des tournées avec lui.
Bien sûr.
Et vous avez connu un Becco qu'on n'imagine pas, farceur.
Oh là, mais il n'y a pas que lui, Johnny aussi était farceur. C'est des cas, les garçons en tournée. Alors, Becco, il aimait mettre toutes les chaussures devant ma chambre, dans les hôtels. J'avais 5 paires de 44 fillettes, comme si je recevais beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire ? Le coquin. Avec Vidalin, son petit auteur. Puis il regardait, j'avais la suite en face de la sienne, au bout du couloir. Il regardait par la porte entrebâillée. Quel effet ça me faisait ? Mon fou, j'enjambais des godasses. C'est les VRP qui avaient des soucis pour les retrouver après.
Voilà. Remarquez, il y a Michel Serrault était aussi spécialiste d'une autre chose dans les hôtels. Un soir, lors d'une tournée, il a fait le tour des chambres et il a mis choucroute au petit déjeuner pour tout le monde.
Oh, quelle horreur.
Y compris pour lui. Et naturellement, on n'a jamais trouvé.
Alors Johnny, lui, en tournée avec Johnny, quand je suis parti avec lui en première partie, on avait des hôtels nouvelles normes, deux étoiles. Hein. Il n'y avait pas les nouveaux hôtels, tout ça à l'époque, c'était en 68. Qu'est-ce qu'il faisait ? Les toilettes au bout du couloir, il enlevait. Le WC, l'écriteau, il le martelait sur la chambre du régisseur, il mettait le mur de la chambre du régisseur sur les toilettes, et le pauvre régisseur, le matin, était épuisé. Je n'ai pas dormi de la nuit, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ont tous tapoté à ma porte, qu'est-ce que c'est ? Et les gens repartaient. Ça, c'était Johnny. C'est tous des farceurs. Un jour, je le dis dans mon livre qui va sortir, là, Johnny, à Colmar. Eh bien, attends, j'ai fait mon service militaire dans le coin, on va aller boire un pot, il y a une boîte qui s'appelle le chat, je sais pas quoi, dans les vignes. Il a retrouvé l'endroit, la frontière allemande. On est rentré à 4h30 du matin à l'hôtel, genre hôtel de la gare, à Colmar, et il fallait repartir le lendemain, il y avait 300 ou 500 points d'affaires. Et il dit au monsieur, il y avait les fiches, il n'y avait pas les moyens aujourd'hui de téléphonique comme il existe, c'était l'Inter. Et dit, bon, t'es la groupie du premier rang, t'es la blonde Groussin qui me faisait, on va appeler tout l'orchestre, tu vas dire que tu vas les rejoindre. Alors, tac, tac, tiens. Alors, et le batteur, allô, je suis la blonde, tu sais la blonde, tu m'as regardé, hein, oh, j'ai bien vu que je te plaisais, je suis la blonde Groussin, la petite devant, tu vois, ben monte, je suis au 32. Il a fait tout l'orchestre comme ça, je me dis, qu'est-ce qu'on a pu rire. Et maintenant encore l'orchestre. Voilà, c'était les tournées à l'époque, on s'amusait avec un rien.
Oui. Et puis la première tournée quand même, vous avez beaucoup appris grâce à Salvatore Adamo.
Ah ben, c'est tellement quelqu'un de régulier, de carré et de tranquille. t'apprends à rentrer en scène, tu apprends qu'il ne faut pas faire plus de 3 saluts, sinon c'est pas bien, c'est trop, il faut rester poli. Il est au service du public, j'ai appris à faire des dédicaces à la fin de mes concerts, d'écouter les gens nous parler. J'ai appris le calme, c'est quelqu'un de calme et serein. Johnny, c'est autre chose. Je suis passé d'Adamo à Johnny. Hein. Après Johnny, j'ai fait Eddie Mitchell. Après, j'ai fait donc Monsieur Becco.
Et alors, il se trouve aussi qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup compté dans votre vie, parce qu'un soir, il est venu voir sur scène et vous avez repris une de ses chansons.
Quand on a
un des chocs de votre vie, Nicoletta, c'est Brel qui est venu vous applaudir.
Oui. Ah là là, qu'est-ce que j'ai eu peur ce soir-là. Qu'est-ce que j'ai eu peur. J'étais très intimidée, très affolée. Je dis, moulin, le grand Jacques est là. Oui, 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 qu'est-ce qu'il veut. Et les mamans, ils me disent, tu sais, il veut venir t'écouter chanter parce qu'il cherche une douce chaînée, hein, pour l'homme de la Manche qu'il est en train de monter, la fameuse comédie musicale qu'il a montée pendant 2 ans après avoir fait ses adieux. Et Barclay m'a dit, non, je ne la donne pas, moi je l'enregistre, je l'ai signé pour qu'elle me vende des disques, qu'elle me fasse de l'argent. Si tu me la mets au théâtre, elle ne va plus me vendre un disque. Donc je n'ai pas pu. Et il m'a dit, mais t'as qu'à chanter une de mes chansons. Et j'ai choisi Quand on n'a que l'amour.
Et Brel avait beaucoup d'humour. Un jour, il a dit à propos d'Aznavour, c'est la seule personne que je connaisse qui tienne debout dans une Rolls. Et Aznavour, justement, il y a un jour de tristesse que vous avez partagé, le départ d'Eddie Barclay.
Oui, bien sûr. C'était... Vous savez, Eddie, c'était quelqu'un, on pouvait se fâcher avec lui. C'était pas grave, c'était le moment du paternalisme. Moi, j'étais fâchée après lui, je prenais le taxi, parce que je conduis pas. Je filais à son bureau, sans rendez-vous, sans rien. Je me levais à 9h. Il était pas encore là, j'attendais à 6, qu'il arrive, avec sa petite vanity case, là, attaché case, homme d'affaires. Mais qu'est-ce que tu fais là? Faut que je te parle. Quelle mouche te pique, qu'est-ce que t'as encore? On pouvait s'engueuler avec Eddie Barclay. Aujourd'hui, pour avoir affaire à un PDG d'un label, il faut attendre 2 ou 3 mois si t'es pas bankable. Vous voyez ce que je veux dire?
Et encore?
Je ne sais pas, mais je sais que c'est beaucoup plus réglé qu'avant. On a vu ma jeunesse, nous les jeunes de ma génération, on a connu l'âge d'or quand même. On pouvait aller discuter avec le patron sans avoir de problème. Puis ça s'arrangeait après.
Oui.
Ça faisait, mais je t'aime, ma chérie, tu sais très bien que je t'adore. Ça finissait, c'était comme papa et la gamine, quoi. C'était formidable.
Et il y avait un autre moment.
Et j'ai chanté pour son enterrement. Oui. C'est normal, j'ai fait du gospel. J'ai interdit qu'on me filme. Parce que bon, où tu accompagnes quelqu'un dans une église, on n'est pas là pour rigoler, quoi. Moi, j'y dois tout. Il dit, bah, qu'il a changé ma vie. Vous rendez compte? Il est mon grand miracle. Il a changé ma vie, cet homme.
Et puis, il y a un instant qui a aussi changé votre vie. C'est votre premier Midem en 70.
Oui,
avec
Bernard Chevry.
Parce que bon, il y avait Mike Brand qui était là aussi, qui débutait.
Uh-huh.
Et c'était pas du tout le Midem avec les hommes d'affaires d'aujourd'hui. C'était là aussi la fête, Nicoletta.
Oh ben le Midem, c'était la rencontre internationale. Il y avait tous les pays qui étaient représentés. Moi, je me souviens, il y avait déjà mai 68. Ils avaient mis Nicoletta non annulée.
Oui.
Mon avis, c'était non annulé. La France, Nicoletta, non annulé. C'était très drôle.
Oui, ce qui aujourd'hui ne fait plus rire du tout.
C'était très drôle.
Et puis, il y a quand même le plus grand qui vous a chanté, qui a repris une chanson qui est devenue un classique.
Il est mort le soleil quand tu m'as quitté. Il est mort.
Alors, Red Charles a repris cette chanson. Il faut d'abord raconter qu'un jour, au Canada, je crois, vous avez connu Red Charles.
Oui, j'ai connu Red Charles parce que nous avions les mêmes agents, les frères La Traverse, qui s'occupaient de nous localement. Et évidemment, Red Charles faisait partie de mes amours musicaux depuis les années 60. J'étais folle du rhythm and blues, du blues et du jazz et du gospel, étant frontalière suisse. Et nous, on avait droit aux disques import, les gamins de ma région. Ce qui n'existait pas en France, vous savez. Les disques import sont venus beaucoup plus tard dans le marché français.
Tout à fait.
Et donc, j'avais cette chance d'avoir cette éducation musicale à l'américaine. Et j'étais folle de Red Charles. C'était toutes mes pièces de 20 centimes, ou Jukebox de la plage, What Did I Say, George on My Mind, I've Got a Woman. On chantait là-dessus. C'était quelque chose de merveilleux.
George on My Mind, d'ailleurs, il ne devait pas la chanter sur son premier album. Il la fredonne en voiture et son chauffeur lui dit, Monsieur Red Charles, vous devriez la chanter.
Oui.
Et c'est comme ça que c'est devenu un classique qu'il n'a jamais interprété 2 fois de la même manière en 40 ans.
Ah, mais il chante très très bien, c'est un homme incroyable. Et c'est vrai que je dis toujours, il a le cœur au bord des lèvres. Et quand je l'ai rencontré, bon, j'étais l'écouter chanter avec Monsieur Missy qui m'accompagnait. Je me suis retrouvée à dîner avec lui au quartier chinois. Il m'a demandé mon album, je lui ai confié. Il m'a écrit sur son carnet de braille mon nom, mon adresse, mon téléphone, etc. Il a clôturé tout ça, puis bye bye Ray Charles. Quelques semaines plus tard, je reçois un coup de fil dans la nuit, avec le décalage horaire. Il est en tournée dans la Ohio. Eh bon, on me dit, vous êtes Madame Nicolette. Oui, on vous demande de l'œil. Ouais, c'est ça. J'en vois promener les gens, je me dis, c'est les fans qui m'en font voir. Pas du tout, j'entends le rire tenitruant de Ray Charles. C'était lui, et il me félicite pour mon travail, et il commence à me dire, écoute, es-tu une chanson que j'aime beaucoup, mais qu'est-ce que tu racontes dans cette chanson? Et il me fait écouter Les Morts le Soleil. Je dois vous avouer que j'étais un petit peu gêné, hein, pour dire à un aveugle, ben, elle s'appelle Il est Morts le Soleil. Bon, j'en ris maintenant, mais sur le moment, c'était pas drôle du tout. Et bon, je lui ai expliqué que c'est une chanson d'amour avec mon anglais, la Maurice Chevalier. Et puis il a dit, ah ouais, les likes. Je vais la faire. Il dit, je vais la faire en anglais. Bon, merci, bravo. Bon, et je le dis ça à ma maison. C'est ce qu'ils m'ont dit. Faut t'en reposer chez vous, faut pas être mythomane. Dès qu'on fait des belles choses, on est mythomane. Enfin, toujours est-il que j'ai reçu un billet d'avion en prépaid. J'ai payé un billet d'avion de Grégory qui parlait mieux anglais que moi pour m'accompagner à New York.
L'auteur de vos chansons.
Oui, nous lui avons fait une traduction littérale sur une feuille de papier. Il a corrigé le texte et il l'a enregistré.
Voilà. Et c'est devenu un succès mondial.
Et c'est devenu un succès mondial. Et quelque part, il a été un parrainage pour moi sérieux. Sérieux, les gens de radio tout d'un coup ont commencé à me regarder. Tiens, elle intéresse quand même des sacrés bonhommes, celle-là, c'est peut-être qu'elle va durer. Oui, voilà. C'était un parrainage extraordinaire, vraiment.
Et ça a duré, et une chanson symbolise cette durée, c'est « Ma vie, c'est un manège ».
Oui, ma vie, c'est un manège, toutes choses passent.
C'est vrai que cette chanson, en plus, elle a touché un nouveau public.
C'est-à-dire que les maisons de disques, à l'époque, n'aimaient pas qu'on clone nos chansons qui avaient été des gros succès. Ils essayaient toujours qu'on supprenne le public. Vous voyez ? Par exemple, Il est mort le soleil ne ressemble pas à la musique. Ma vie, c'est un manège ne ressemble pas à Il est mort le soleil. Ensuite, j'ai fait Mamie Blue, ça ressemble pas à Ma vie, c'est un manège. J'ai fait Les volets clos, ça ressemble pas à Mamie Blue. J'ai fait du brésilien, Fio Brasilien, ça ressemble. Oui, on aimait surprendre avec une musicalité différente pour montrer les facettes du talent que peut avoir un interprète. Et je crois que c'est ça être chanteur de variété. C'est varier les plaisirs des oreilles des gens qui nous aiment.
Et varier ses plaisirs, on va le retrouver au Lido et en tournée à travers une autre date qu'on va évoquer dans quelques instants, le 3 février 2021. À tout de suite sur Sud Radio avec Nicoletta.
Les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Nicoletta, 3 février 2021, le Lido, salle mythique.
Le 3 et 4.
Le 3 et 4.
Deux jours,
deux soirées au Lido, et c'est la première le 3 février.
Ouais.
50 ans de scène dans un lieu inattendu pour des concerts, Nicoletta.
Si, le Lido a fait souvent des concerts, mais ils avaient arrêté depuis une trentaine d'années.
Et pour l'instant, ça va plutôt bien. Le Lido, vous parliez des concerts, mais il faut savoir que le Lido, le premier Lido à Paris, était aux Champs-Élysées au 78, et c'était une plage dans les années 30, la plage de Paris.
Oh, c'est drôle.
Et quand on va au sous-sol, ce qu'il en reste en tout cas, on voit encore des restes de la piscine et des cabines de bain de l'époque.
Parce que c'est drôle, je regarderai.
Mais c'est l'ancien Lido 78.
Ah, c'est 78, oui. Ce qui était le club 78.
Exactement,
d'accord.
Et avant c'était le Lido.
D'accord.
Alors, finalement, en 50 ans, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Il y a beaucoup de légendes qui ont couru sur vous. Je me souviens, on vous appelait à un moment l'Albertine Sarrazin de la chanson.
Non, c'est un quiproquo. J'ai été demandé pour faire les essais pour tourner la vie d'Albertine. Bon, je suis allé. Et on m'appelait l'Albertine Sarrazin de la chanson. Pourquoi ? J'en sais rien. Parce que j'ai fait 6 mois chez les sœurs, ou mon pasteur, qu'elle en avait fait aussi.
Oui.
Mais j'ai refusé le film. Je vais vous dire pourquoi. C'est Marlène Jobert qui l'a fait. J'ai reçu une lettre à l'époque du mari d'Albertine. Et c'est Albertine Sarrazin dont j'ai lu les trois romans qui sont très touchants.
Dont l'Astragale.
Ah, l'Astragale, où quand elle s'enfuit, qu'elle se casse les talons. Bon, cette femme a été spoliée sur ses droits. Et cet homme a envoyé une lettre très intelligente et très sentimentale et très attachante, me disant, par respect pour Albertine, je vous demande de ne pas faire ce film. Et il me donne la somme qu'elle a touchée, et c'était dérisoire. Ils l'ont vraiment eu, la pauvre chérie, et elle venait de mourir depuis quelque temps.
Elle était morte à 29 ans d'une opération
ratée. Des reins, voilà, ouais. Elle avait un truc rénal. Et je suis assez sentimentale, j'étais jeune à l'époque, et j'ai refusé le film. Par respect pour Albertine, et j'ai gardé la lettre de ce monsieur, Julien Sarrazin, dans le livre que j'ai toujours. J'ai acheté un gros livre où il y a les trois romans d'Albertine en souvenir.
En 50 ans de carrière, vous avez aussi lancé des modes, et cette chanson en est un symbole, Nicoletta. Car finalement, la chanson brésilienne, quand vous avez amené Fio Maravilha en France, personne ne connaissait.
Non. Pour cause, il venait de la composer, le compositeur George Ben.
Oui.
Mais c'est vrai que Barclay, quand je lui ai dit, bon, je mets ça dans mon album, il me dit, mais ça va pas, le Brésil, ça marche pas du tout. J'ai tout essayé. Je vais au carnaval chaque année. J'adore ça. Je m'occupe de Baden-Baden. J'ai plein de musiciens. Ça marche pas. Maria Bethania, ça marche pas. Mais là, dans l'album, je vais pas en entendre parler. Tu parles, tu es obligé de faire un simple. Ça a beaucoup plu aux radios. Et c'est vrai que le texte de Boris Gberman swingait merveilleusement bien. Il écrit très bien, Boris. Il a bien fait des petites onomatopées avec des consonnes d'attaque qui faisaient bien sur le tempo bossa nova. Et on l'a bien réussi. Voilà.
Il y a quelqu'un en France.
Et c'est vrai qu'après, c'était une vague.
Oui.
Hein? Ça a ouvert les portes. Comme j'ai ouvert la porte pour le gospel.
Oui. Mais il y a quelqu'un aussi qui ne connaissait pas George Ben en France. C'est Guy Lux.
Oh, que c'est drôle, ça. Oh, oui, Bobby George vient pour faire Guy Lux, parce que ça, il a fait un pot pourri qui a très bien marché, un medley, vous rappelez, qui a fait le tour du monde. Et Guy dit, bon, et maintenant, George et Ben. Et George s'installe avec ses musiciens. Et il est où? Il est où? Qui? Ben, il est où Ben? Mais non, c'est George Ben. Ça, c'était Guy, on l'adorait pour ça aussi. Il était incroyable.
Et puis, il faut savoir quand même que le Brésil, en 1940, quelqu'un a entendu des rythmes brésiliens et a fait au retour de la guerre la première samba brésilienne.
Aïe, 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 Maria, Maria de Bahia, qui menait le bal au carnaval.
Maria de Bahia par Reventura, si j'en parle.
Eh ben dis donc, oui, comment il s'appelle?
C'était Paul Misraki.
Qui était le compositeur.
Compositeur d'une autre chanson qui
dont
vous concerne.
Dont j'ai fait un tube, Les Volets Clos.
Les Volets Clos.
Tout à fait.
Fermons la fenêtre et laissons les volets clos. Tant pis pour le patron. Mes yeux dans tes yeux.
C'était un génie, Misraki, d'ailleurs.
Quelle classe il avait. Je le vois rêver chez moi. Élégantissime. Un petit costume trois pièces. Un petit nœud papillon, plein après-midi. Impeccable. Chicos, formidable. D'une gentillesse.
Et il avait écrit une chanson, Tout va très bien, Madame la Marquise.
Oui.
Et il a compris que cette chanson avait du succès qu'un jour, en voiture, il a entendu un petit télégraphiste à côté siffler la chanson sur son vélo.
Eh ben voilà. Vous voyez que c'est comme moi. Alors, dès qu'on est sifflé sur un vélo, il n'y a plus de soucis.
Alors, le cinéma, justement, il y a eu quelques expériences, et notamment Un aller simple. Mm-hmm. Ça a été
avec
un film de José Giovanni,
oui. J'ai bien aimé cette expérience, c'était très intéressant.
Mais vous auriez
c'était un film contre
cinéma.
La peine de mort. On l'a tourné en Belgique, parce qu'elle était encore là, à l'époque, la peine de mort en France. Et j'avais le rôle d'une petite complice de vol de bijoux, évidemment. On est sur des rôles un petit peu de voyoutes. Mais j'ai bien aimé, parce que José Giovanni était un homme vraiment intéressant. Et il y avait une équipe d'acteurs extraordinaires. Ottavia Piccolo, Giancarlo Giannini, Roger, comment il s'appelle, Garel, il y avait Maurice Garel. Il y avait des gens incroyables, des grands acteurs qui m'ont appris beaucoup de choses. J'ai refait ensuite une autre expérience pour La Une, avec Raymond Pellegrin, qui est un grand acteur aussi. J'ai fait le rôle criminel, là, le Manoir des Veuves, pour TF1, un téléfilm, il y a quelques années. Et là, il y a 2 ans, j'ai refait une expérience, rôle d'une mère complètement traumatisée, qui garde un secret pendant 30 ans. Elle sait que c'est son fils qui est criminel, et elle le garde pour elle. Et j'ai travaillé avec Le Bihan, qui est un acteur formidable, qui m'a vraiment beaucoup aidé. J'aime bien aussi être au cinéma, être actrice.
Et puis un jour, vous êtes au Flore, je crois, à Saint-Germain-des-Prés, il y a quelqu'un qui vous tape sur l'épaule, vous vous retournez, et c'est Alain Delon.
Oui, c'est pour Florence, au Bistingo.
Oui,
c'est tout à côté. Oui. Hein. C'est Alain, oui, pour me féliciter, me dire que j'étais sympa et tout,
ça
parce qu'il est un artiste Barclay.
Oui.
Ah ben oui, Oh ben oui. Moi, j'étais pas contente parce qu'elle avait trempé son croissant dans mon café.
Oui.
Et je lui tournais le dos. Je me disais, c'est un imbécile qui me fait se mettre son croissant dans mon café. Et c'était Monsieur Delon. Et j'ai enregistré sa chanson du générique, Jeff.
Exactement.
Cet ami, ce frère, m'avait donné le monde.
Et cette chanson vous a valu d'ailleurs une engueulade d'Alain Delon parce que vous n'étiez pas arrivé à l'heure. Alors,
oh là là. Mais il m'a appris une chose, et il avait raison. J'ai eu un quart d'heure en retard, j'ai pas de permis, alors moi, pour trouver des taxis et tout. Et je suis arrivé un quart d'heure. Il m'a dit, ça c'est une chose, si tu veux durer sans ce métier, et devenir une star, t'as intérêt à être à l'heure. Bon, très bien. Et puis voilà, et il avait raison.
Il avait raison, et puis donc il y a eu la nouvelle activité, le gospel,
oui.
Qui est venue un peu d'ailleurs par votre grand-mère y avait pensé un jour.
J'ai fait, sur une grande radio périphérique, une messe de minuit, aux entrepôts Calberson, dans une émission qui était pour les routiers. Tous les routiers sont venus avec leurs camions enguirlandés comme des arbres de Noël, c'était magnifique sur les périphériques. C'était en 76. Et je n'ai d'enregistré Glory Alléluia. Glory, Glory Alléluia. Où je chantais la naissance de Jésus. Gospel veut dire évangile. Et tous les textes sont pris dans le Nouveau Testament. Et donc, le curé vient me voir. On speech la messe. Je chante Silhouette to Jesus. Deux, trois gospels, etc. Une chorale d'enfants. C'était magnifique. 20 000 personnes. Ça tombait comme des mouches. Heureusement, il y avait la Croix-Rouge. Un souvenir incroyable. Et la radio en question l'a retransmis, ma grand-mère, elle a écouté depuis chez elle en Haute-Savoie. Et je lui envoie mon nouveau disque, quelques temps plus tard, elle me dit, ouais, c'est bien, ouais, bah, c'est joli quand tu chantes. Mais ça fait rien quand même, quand tu chantes le gospel, c'est tellement plus beau. Et quand j'ai eu ce moment d'hésitation, il y a quelques années, vers la cinquantaine, où tu dis, je fais quoi là? Je vais à la retraite ou quoi? Je suis du déjà vu, du déjà entendu, c'est difficile de trouver des chansons, je piétine, quel défi je peux me donner? Je me suis souvenu de cette phrase de ma grand-mère. J'ai appelé une amie américaine, j'ai dit, est-ce que tu connais un chef de chœur ou une chef de chœur pour que je travaille le gospel? Elle m'a donné un atelier, j'ai travaillé comme une folle pendant des semaines. J'ai travaillé ensuite avec une chorale, j'ai travaillé avec le pianiste à la maison, et je suis partie faire l'aventure à travers les églises. Voilà. Mais
résultat, 1 million de spectateurs qui ont tous repris en chœur cette chanson.
Happy day,
oh, happy day,
happy day.
Oh, happy day.
Car ça, c'est le classique des classiques.
Oh ben, happy day, oui, oui.
Et ce sera au programme du Lido, je pense.
Bien sûr, oui, oui. Ce sera, je pense que je ferai un final. J'inviterai une chorale gospel pour finir.
Alors, ce spectacle, c'est le 3.
Mais c'est de la variété que je vais faire. C'est pas du gospel.
On est bien d'accord, mais voilà. Ce sera dans ce florilège de chansons que nous avons évoqué.
Voilà.
Je précise qu'avant ce Lido, le 18 novembre, vous êtes à Périgueux, le 19 à Montauban, le 20 novembre à Albi, ensuite à Villefranche-de-Rouergue, et qu'il y aura d'autres dates aussi en
dans
décembre.
Dans l'Est, ce serait l'Alsace.
Strasbourg, Metz, Saint-Germain-des-Prés,
voilà,
et le 3 et 4 février au Lido.
Et je remercie les maires du Sud-Ouest, surtout celles de Périgueux. Ils ont été formidables quand ils ont vu qu'on venait. Nous sommes vraiment, mon mari a la licence, il ouvre la billetterie, il ouvre les lieux. Eh bien, ils nous ont offert la communication gratuitement, tellement ils sont contents que les artistes reviennent en concert.
Et vous, vous revenez quand vous voulez au micro de Sud Radio.
Mais c'était un ravissement de parler de tout ça avec vous, mon cher Jacques, que je n'ai pas vu depuis longtemps, et ça me fait très plaisir de vous avoir retrouvé.
Et moi aussi, et puis donc, j'espère que les auditeurs ont partagé ce plaisir, j'en suis même certain. C'est fini, les clés d'une vie pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt, et en attendant, restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.
À bientôt, merci.